un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 24 juin 2024. Et c'est Jean-Louis au micro de Radio Libre en Périgord pour cette chronique du groupe Fred Zeller. Lundi prochain, nous serons le 1er juillet. Et pour cette prochaine chronique, nous serons peut-être, voire probablement dans une situation totalement inédite. Nous en parlerons à ce moment-là. Pour aujourd'hui, je vous propose de revenir une fois de plus sur la question de la Palestine, des Palestiniens et de cette situation absolument inacceptable qui ne fait que s'aggraver de jour en jour. Alors j'ai pour cela un premier texte qui est un reportage de terrain qui a été fait par Guenaël Lenoir et publié sur Mediapart le 20 juin dernier, titré « Dans les territoires occupés, l'État hébreu s'acharne contre la population palestinienne. C'est l'autre guerre d'Israël. Attaques de colons incessantes, campagnes massives d'arrestations, mauvais traitements infligés aux personnes détenues ou encore circulation entravée. L'occupation destructrice de la Cisjordanie se poursuit. Der Dibwam, Burqa, Ramallah, Cisjordanie. Dimanche 16 juin, jour de la fête de l'Aïd al-Adha, aussi dite Aïd el-Kébir. Samuel Kalan, ingénieur et maire du village de Burqa, à une poignée de kilomètres à l'est de Ramallah, pensait bien passer la soirée à rendre visite à sa famille élargie, puis partager le traditionnel mouton, comme il se doit lors de n'importe quel Aïd al-Adha. C'était sans compter sans les habitants des colonies israéliennes qui enserrent Burqa de trois côtés. Citation. Au crépuscule, les colons sont venus mettre le feu sur les terres du village à deux endroits différents. D'abord à un champ de vieux oliviers à l'ouest du village, et puis à une tente de berger au sud, raconte Samuel Kalan à Mediapart, tard ce dimanche soir, par téléphone. Nous sommes tous là depuis des heures, assis à regarder les feux progresser, totalement impuissants. La défense civile n'ose pas s'approcher, il fait nuit, on ne sait pas si les colons ne sont pas en embuscade, on a peur qu'ils n'attaquent le village maintenant. Il ne s'agit pas de paranoïa, juste de l'expérience partagée avec les petites villes voisines Betin et Deir Dibouan. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite israélienne, les agressions des colons se sont accrues. Leurs représentants siègent en bonne place dans le gouvernement formé par Benjamin Netanyahou en décembre 2022. Les suprémacistes juifs et colons extrémistes Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich y tiennent respectivement les portefeuilles de la sécurité nationale et des finances. Après le 7 octobre 2023 et les massacres commis par le Hamas et d'autres factions palestiniennes, la brutalité des colons a franchi un cran. Comme leur impunité, le gouvernement israélien leur a largement distribué des armes alors même qu'ils portaient déjà fréquemment un fusil d'assaut ou un pistolet. Nous voyons la mise en œuvre de ce que Smotrich a appelé en 2017 son « plan décisif », explique Ibrahim Rabaya, enseignant de sciences politiques à l'université Beer Zeit. Il y prône l'annexion de la Cisjordanie et dessine trois scénarios pour les Palestiniens. Rester sous l'occupation en acceptant leurs conditions, partir ou résister et dans ce cas être tué. Bezalel Smotrich écrivait en effet, citation, « Il n'y a pas de place pour une seule expression de l'autodétermination nationale à l'ouest du Jourdain, celle de la nation juive. Et toute solution doit être fondée sur la suppression de l'ambition de réaliser l'espoir national arabe entre le Jourdain et la Méditerranée. » Au moins, c'est clair. Les attaques se succèdent. Un peu partout en Cisjordanie, les colons s'y emploient avec détermination. Appuyés par l'armée, selon les multiples témoignages recueillis notamment par Mediapart. Dans le meilleur des cas, les soldats de l'État hébreu n'interviennent pas pour empêcher les exactions des colons. Dans d'autres, ils les protègent et répriment les Palestiniens et Palestiniennes qui s'opposent aux assaillants. Interrogé par Mediapart sur sa politique vis-à-vis des attaques de colons et sur les accusations de collusion, l'armée israélienne ne nous a pas répondu. La Cisjordanie est devenue l'État des colons, avec des habitants palestiniens considérés comme des résidents non permanents qu'il s'agit de chasser, reprend Ibrahim Rabaya. Il ne se passe pas une semaine sans attaque. Le 10 juin, Mediapart Est est à Burqa et Deir Dibouane. Les champs d'oliviers fument encore. Personne parmi les habitantes et habitants ne se risque là-bas. Les caravanes d'un avant-poste sont à quelques centaines de mètres, à peine des arbres qui achèvent de se consumer. Un peu plus loin, les carcasses tordues des voitures de la casse de Burqa gisent sous le soleil. Le garagiste ne trouvera plus de pièces détachées. Partout, l'air est imprégné de la fumée, des incendies allumés 3 jours plus tôt, le vendredi 7 juin. « Le vendredi et le samedi sont les plus à risque pour nous », expliquent Samuel Kalan et Taizir Mohamed du conseil municipal de Deir Dibouane. « Les colons viennent nous terroriser même pendant la prière du vendredi. » Et les deux élus de se lancer dans une litanie sans fin d'attaques subies, visant les récoltes, les maisons les plus éloignées des centres des villages, les bergers et leur bétail. Deir Dibouane a comme caractéristique d'être très étendu avec une superficie de 730 km². Ses possessions vont presque jusqu'à Jéricho et la commune s'enorgueillit dans la vallée qui descend vers la cuvette de la mer Morte de terres agricoles très riches. Une proportion de 85% de cette surface est en zone C, soit sous contrôle israélien complet, selon le découpage institué par les accords d'Oslo de 1993. Zone A, zone B, zone C, tout ça c'est pareil depuis le 7 octobre, il n'y a plus d'autonomie palestinienne nulle part, dit Taïr Mohamed, élu de Burqa. Rien, pardon, ne peut y être cultivé ou construit sans une autorisation de l'administration israélienne dite civile, en fait dirigée par l'armée, en charge des territoires palestiniens occupés. La zone A est celle du contrôle de l'autorité palestinienne pour les affaires civiles comme pour la sécurité, et les forces israéliennes ne sont pas censées y pénétrer, sauf à la demande de l'autorité. Dans la zone B, ce sont les Israéliens qui gardent le contrôle militaire et policier. Ça avait de l'importance avant, maintenant beaucoup moins, puisque de toute façon, toute la Cisjordanie est à nouveau totalement occupée, soupire Taizir Mohamed. Zone A, zone B, zone C, tout ça c'est pareil depuis 7 octobre. Il n'y a plus d'autonomie palestinienne nulle part, et nos éleveurs, notre bétail, nos bédouins sont des cibles permanentes où qu'ils se trouvent. Si les attaques ne sont pas nouvelles, elles ont pris un tour nouveau depuis le 7 octobre. Outre l'armement à outrance des colons, l'appui de l'armée leur est désormais complètement acquis, jusqu'à empêcher les secours. Le 7 juin, le camion de pompiers a été bloqué 45 minutes par les soldats, s'indigne Taizir Mohamed, officiellement parce qu'il ne pouvait pas assurer la protection des équipements. Le 21 avril, c'est la maison d'un éleveur qui a été directement visée. Les colons ont incendié les étables abritant 300 moutons et chèvres. L'armée a installé un barrage militaire pour nous empêcher d'accéder au sinistre, affirme Taizir Mohamed. Il a fallu l'intervention appuyée du Croissant Rouge pour que les soldats autorisent le véhicule de la défense civile à intervenir, alors qu'il avait déjà mis plus de 2 heures à arriver à cause des routes bloquées depuis le 7 octobre. La circulation en Cisjordanie, elle aussi, est entravée depuis octobre 2023, comme rarement auparavant. Au fin fond du territoire ou tout près des grandes villes, la galère est la même et se rendre d'un point à un autre demande une sacrée connaissance de la géographie alternative à celle des axes habituels. Deir Dibouane et Burqa, de prime abord, constituent d'agréables lieux de résidence. À une dizaine de kilomètres de Ramallah, ils sont surnommés la Petite Amérique, car une part importante de leurs résidentes et résidents, 80% dans le cas de Deir Dibouane, 50% dans celui de Burqa, sont aussi citoyens américains. Beaucoup résident aux États-Unis et y ont souvent des situations professionnelles enviables. Ils font construire de très grandes maisons qui tiennent, pour certaines, du palace kitsch, villégiature estivale en prévoyance de la retraite. La moitié au moins des habitantes et habitants permanents de ces banlieues aisées doit se rendre quotidiennement à Ramallah, la capitale administrative de facto de l'autorité palestinienne. Étudiantes, étudiants, employés, hommes d'affaires, malades chroniques, tous doivent faire des tours et des détours. Et il faut aujourd'hui une bonne heure pour effectuer le trajet, en dehors des heures de pointe. Il n'y a plus qu'une route pour aller à Ramallah, et elle est souvent coupée elle-même par des barrages volants, constate Taizir Mohamed, lui-même entrepreneur florissant. On ne peut rien prévoir, rien planifier, encore quelque chose qui nous rend la vie impossible. C'est le lot de toute la population de Cisjordanie depuis des années, mais encore plus depuis octobre. Les routes menant à de nombreux villages sont équipées de barrières en métal orange, ouvertes ou fermées au gré de l'occupant. Des entraves à la circulation qui ne concernent pas les colons, bénéficiant de leurs propres axes de circulation, et qui rappellent la deuxième intifada il y a 20 ans. L'ironie, dans le cas de Deir Dibouane et de Burqa, et que les résidents avaient fermement espéré une amélioration de leurs conditions. C'est du moins ce qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, leur avait promis quand il était venu visiter ses concitoyens en février 2023. Il allait demander aux autorités israéliennes de calmer les colons du coin, de rouvrir une des routes fermées depuis 20 ans, la plus rapide pour aller à Ramallah, et d'autoriser les citoyens américains résidant en Cisjordanie à utiliser l'aéroport de Tel Aviv au lieu de devoir aller jusqu'à Amman, en Jordanie, pour prendre l'avion. Bien sûr, ils n'ont aucune nouvelle d'Anthony Blinken et n'attendent plus rien de l'administration Biden, qui a démontré un fervent soutien à Israël depuis le 7 octobre. D'ailleurs, ce 10 juin, la sortie de Deir Dibouan vers Ramallah est bloquée par plusieurs jeeps israéliennes et par des chevaux de frise posés sur la chaussée. Il faut attendre 1h15 pour franchir le barrage et 1 heure supplémentaire pour rejoindre la capitale administrative. C'est un checkpoint de ce type qu'a été arrêté l'avocat Diala Azaï le 17 janvier 2024. Depuis, elle est en détention administrative, procédure héritée du mandat britannique qui permet aux autorités israéliennes de détenir sans procès une personne pendant 6 mois, renouvelable sans limite. Les charges sont connues du procureur militaire seul et ne sont communiquées ni à la personne détenue ni à son avocat. La détention administrative, qui peut frapper n'importe qui et qui interdit à la personne arrêtée toute défense et toute perspective prévisible de libération, constitue un moyen de pression redoutable sur la société palestinienne et sur ses membres les plus actifs. Diala Ayesh ne sait donc pas ce qui lui est reproché, mais elle a fait part, lors d'une comparution devant le procureur militaire le 16 mai, à laquelle assistait son avocat, de conditions d'arrestation et de détention particulièrement rudes. Elle a été malmenée par des soldats, fouillée à corps dans une pièce équipée de caméras, enfermée avec d'autres palestiniennes dans la prison de Dahmon. Elle et ses camarades sont privées de tout contact avec le monde extérieur, de toute intimité pendant les rares douches, d'une nourriture en quantité et qualité insuffisante et de produits d'hygiène manquants. Les vêtements et les draps ne sont jamais renouvelés. Elle n'est évidemment pas un cas isolé, explique son confrère Tahir Snaidey de Lawyer for Justice. Depuis le début de la guerre contre Gaza, en octobre dernier, les Israéliens mènent une campagne d'arrestation massive en Cisjordanie. Des activistes des droits humains, des leaders d'opinion, des influenceurs et influenceuses, des journalistes sont visés. Beaucoup se retrouvent en détention administrative. Nous estimons à plus de 10 000 le nombre de personnes arrêtées après le 7 octobre en Cisjordanie. Certaines ont été relâchées, mais actuellement, nous avons 9 200 détenus, dont plus d'un tiers sous le régime de la détention administrative, reprend Jenna Abouchana de l'organisation de soutien aux prisonniers palestiniens Al-Damer. Il s'agit d'une campagne de vengeance collective. Beaucoup de personnes arrêtées après le 7 octobre avaient déjà connu les geôles israéliennes et en avaient été libérées. Ainsi, Oula, incarcérée une première fois en octobre 2020, jugée pour activisme étudiant, libérée après 21 mois de prison et arrêtée une deuxième fois en octobre 2023, cette fois sous le régime de la détention administrative, avant d'être incluse dans l'échange de prisonniers conclu à l'occasion du cessez-le-feu temporaire du 24 novembre 2023. Ainsi, Omar Assaf, 73 ans, ancien cadre du parti marxiste Front démocratique de libération de Palestine, le FDLP, en prison de façon discontinue entre 1978 et 1995, dont 7 ans et demi en détention administrative, et jamais arrêté depuis 1995, du moins par les Israéliens. Car il a aussi connu les geôles de l'autorité palestinienne après avoir mené une grève des enseignants. Incarcéré en détention administrative en octobre 2023, libéré le 22 avril 2024, il raconte, non sans ironie, son expérience. Avant et après le 7 octobre, c'est le jour et la nuit. Avant, c'était tout juste si les soldats israéliens ne sonnaient pas à la porte quand ils venaient arrêter. Là, ils ont tout défoncé, ils ont fait sauter les portes à l'explosif, y compris chez mon fils qui habite juste à côté de chez moi. Ils ont terrorisé sa femme et ses enfants, les ont enfermés dans une pièce, l'ont sorti violemment et l'ont menotté alors que c'est moi qu'il venait arrêter. Menotté, lui aussi aveuglé par un bandeau, jeté dans une voiture, Omar Assaf est emmené dans un centre d'interrogatoire près de Bethléem. J'ai vu des scènes atroces, des gens avec des côtes brisées par les coups, un autre couvert d'excréments, raconte-t-il. Quant à moi, ils m'ont transféré à la prison d'Ofer, en Cisjordanie occupée, proche de Jérusalem. J'ai reçu la décision de détention administrative après une semaine d'incarcération. J'en ai conclu qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient venus me prendre. L'ancien professeur d'arabe retrouve son humour en évoquant la comparution devant le procureur militaire. Il m'a d'abord accusé d'être un leader du Hamas, et puis il s'est rendu compte que ça ne collait pas avec mon CV et mes activités militantes. Alors la charge contre moi a été modifiée et je suis devenu un leader d'un mouvement de jeunesse. Mais j'aurais dit « j'ai 73 ans ». Finalement, Ils m'ont reproché un post sur les réseaux sociaux dans lequel j'affirmais qu'une alliance entre l'Arabie Saoudite et Israël serait une trahison des Palestiniens. Les conditions de détention maintes fois décrites ne prêtent pas à rire. Tabassage en règle des détenus, plusieurs fois par jour par les unités pénitentiaires connues pour leur violence. Utilisation de chiens d'attaque dans des cellules surpeuplées. Absence de médicaments et nourriture très insuffisante. Tout ce que décrit Omar Assaf à Mediapart a été consigné par les organisations de défense des droits humains. Plus encore qu'avant le 7 octobre, les Israéliens veulent nous faire abandonner notre objectif national qui est d'avoir un État, assure Kadoura Fares, directeur de la commission en charge des affaires des prisonniers et ex-détenus. C'est une vieille ambition de Bibi Netanyahou que de nous persuader de nous contenter d'un bien-être économique et de laisser de côté notre aspiration à la liberté. Aujourd'hui, ils ont décidé d'utiliser une extrême brutalité. Celui qui a été tour à tour chef d'un groupe armé affilié au Fatah, le parti de Yasser Arafat, détenu pendant 13 ans, député, ministre, sert une nouvelle tasse de café noir et fort et conclut, ils ont encore oublié le Soumoud. Mais cette qualité dont s'enorgueillissent les Palestiniens, mélange de ténacité et de résilience, est très sérieusement mise à l'épreuve ces jours-ci et les maisons cossues des Américains de Yerdibouane et de Burqa resteront vides cet été. Donc, c'était ce témoignage publié sur Mediapart qui me semblait intéressant parce qu'il évoque une population qui n'est pas la population la plus pauvre des territoires occupés, on l'a vu, y compris certaines personnes assez qui ont une certaine richesse. Mais bon, tous tombent sous le coup donc, de cette politique que mène le Netanyahou et son gouvernement qui combat le peuple pour la disparition pure et simple du peuple palestinien. C'est bien de cela dont il s'agit. Alors, deuxième document que je voudrais porter à votre connaissance, c'est une tribune qui a été publiée dans Libération le 20 juin dernier. Le titre, c'est « Instrumentaliser l'antisémitisme au lieu de combattre l'extrême droite est indigne et dangereux ». C'est un groupe d'universitaires et de personnalités juives et juifs qui a donc rédigé cette tribune et qui l'a signée. Alors que le danger de voir le Rassemblement national accéder au pouvoir n'a jamais été aussi grand que depuis la dissolution surprise du 9 juin dernier, différents apprentis sorciers ont choisi d'instrumentaliser l'antisémitisme pour attaquer la gauche et les écologistes par un détournement de sens invraisemblable. Ainsi, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, l'Union des étudiants juifs de France, UEJF, le Fonds social juif unifié, FSJU, le collectif Nous vivrons et la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire la LICRA, ont dénoncé l'alliance des partis de gauche et des écologistes au sein du Nouveau Front populaire en les qualifiant de honte et d'accord infâme au prétexte qu'elle inclut la France insoumise, LFI, accusée d'antisémitisme par ses organisations. En amalgamant la critique de la politique israélienne et le juste soutien aux droits légitimes du peuple palestinien avec l'antisémitisme, on en vient à s'opposer à l'indispensable combat de tous les démocrates contre le Rassemblement national. De tels amalgames nourrissent l'antisémitisme, comme l'assimilation de tout musulman au Hamas ou au djihad islamique nourrit l'islamophobie et le racisme anti-arabe. Dans leur litanie contre ce qu'ils appellent les extrêmes, qu'ils renvoient dos à dos, Emmanuel Macron, ses ministres et ses candidats accusent eux aussi l'extrême gauche d'antisémitisme, n'hésitant pas à enrôler Léon Blum dans leurs accusations diffamantes qui sont reprises dans de multiples déclarations et véhiculées à l'envi à travers plusieurs médias. Nous, citoyennes et citoyens juives et juifs, dont l'histoire nous a appris ce qu'est l'antisémitisme, condamnons les accusations d'antisémitisme infondées contre LFI et les différents partis du Nouveau Front populaire. Nous récusons cette falsification de la réalité politique qui rejoint les falsifications de l'histoire. Cette instrumentalisation de l'antisémitisme est condamnable à de nombreux titres. D'abord, parce qu'elle dédouane l'extrême droite, dont l'histoire et les racines sont indissociables du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie. Ensuite, parce qu'elle empêche la constitution d'une digue capable de faire barrage au RN. En troisième lieu, parce qu'elle vise à briser l'alliance des gauches et des écologistes, une rupture qui ne profiterait qu'à l'extrême droite, et parce qu'elle tente ainsi de détruire la seule alternative crédible et souhaitable à ce risque majeur pour la liberté, l'égalité, la fraternité, pour la démocratie. Enfin, parce qu'elle sabote le combat contre les résurgences de l'antisémitisme en France et en Europe, un combat crucial, inséparable de la lutte contre toutes les autres formes de racisme. Certaines et certains ont été heurtés et ont été en désaccord avec telle déclaration, telle prise de position de certains militants ou responsables de LFI ou d'autres partis du Nouveau Front Populaire. Pour autant, nous refusons de cautionner des accusations politiciennes et l'instrumentalisation d'antisémitisme qui visent à délégitimer plutôt qu'à débattre. Comme tous les racismes, l'antisémitisme est un délit qui tombe sous le coup de la loi. Or, aucun dirigeant ou élu des partis composant le Nouveau Front Populaire, dont le programme affirme « l'antisémitisme a une histoire tragique dans notre pays qui ne doit pas se répéter », tous ceux qui propagent la haine des Juifs doivent être combattus, n'a pour l'heure été condamné pour ces faits, à l'inverse de nombreux responsables d'extrême droite. À notre connaissance, aucune des organisations précitées n'a publiquement porté plainte pour antisémitisme contre une ou un responsable de gauche ou de l'écologie politique. Que le RN soutienne désormais le gouvernement israélien et la colonisation dans les territoires occupés ne change rien à sa nature profonde. C'est toujours à l'extrême droite que les préjugés et actes racistes, anti-arabes et antisémites en particulier, sont les plus répandus, comme en témoignent avec constance les rapports annuels de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. La lutte contre l'antisémitisme et contre tous les racismes est un combat fondamental. Il ne peut pas, il ne doit pas être dévoyé par des jeux politiciens. Citoyennes et citoyens juifs et juifs, nous considérons de notre devoir historique, tant au nom de nos mémoires individuelles et collectives que vis-à-vis de l'histoire et de l'avenir, de faire barrage à l'arrivée au pouvoir du RN. Là est l'urgence, là se mène le vrai combat contre l'antisémitisme et tous les racismes. Et les premiers signataires, les initiateurs de cet appel sont Isabelle Avran, journaliste, Sophie Bessis, historienne, Edgar Blostein, militant associatif, Ronny Broman, ex-président de Médecins sans frontières, Dominique Gleiman, professeur émérite en sociologie, Pierre Calfa, économiste, Fondation Copernic, Alain Lipietz, économiste, ancien député européen, Daniel Lochac, universitaire, Véronique Naoum-Grapp, chercheur en sciences sociales, Pierre Tatakowski, président d'honneur de la LDH, Michel Zemmour, ex-conseillère région Île-de-France, vice-présidente agglomération pleine commune. Voilà, je pense que c'était important de lire cet appel donc de ces personnalités juives des juifs qui s'opposent donc à l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Alors, un dernier texte que je vous propose pour cette chronique, c'est encore par rapport à cette question palestinienne, un aspect tout à fait préoccupant, qui concerne la répression contre les mobilisations lycéennes. Plusieurs actions de mobilisation lycéenne en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre ces dernières semaines. Élèves, parents et avocats qui dénoncent déjà une répression inédite se disent très inquiets face à la possibilité de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et donc là, c'est bien le pouvoir actuel qui a organisé cette répression contre les lycéens qui cherchent à protester contre les exactions de l'armée israélienne à Gaza en particulier. Le printemps 2024 a vu fleurir plusieurs mouvements de mobilisation lycéenne avec des mots d'ordre simples, un cessez-le-feu à Gaza et une prise en compte de la parole de la jeunesse sur la guerre menée par Israël dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre. Des mots d'ordre similaires à ceux brandis par leurs aînés dans les amphithéâtres des facultés ou des instituts de sciences politiques. Ces mobilisations lycéennes, portées en écrasante majorité par des mineurs, ont fait face à une répression policière importante et indiscriminée. Jeudi 6 juin au soir, à quelques jours des élections européennes, 48 lycéens et lycéennes parisiennes ont été interpellés alors qu'elles et ils tentaient de bloquer un étage du lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement de Paris. Leur but, engager une discussion avec leur direction et le rectorat au sujet de la guerre à Gaza. Le lendemain, la préfecture de police de Paris parle d'individus qui auraient dégradé les premiers étages de l'établissement avant de se barricader à l'aide de chaises et de tables, et de deux agents de sécurité victimes de violences lors de cette intrusion. Appelée en renfort, la police aurait alors interpellé tous les protagonistes pour les placer en garde à vue. Le communiqué ajoute que la directrice de l'établissement et les agents de sécurité prévoient de déposer plainte ultérieurement. Le parquet de Paris n'a pas confirmé le dépôt de ces plaintes à Mediapart à l'heure de la publication de cet article, c'est-à-dire le 21 juin. Mais la version de plusieurs élèves présentes lors de cette mobilisation et interrogées par Mediapart est différente. On s'était donné un mot d'ordre de pacifisme avant de lancer la mobilisation, explique Margot, lycéenne parisienne qui participait à l'action. On savait que, si on voulait tenir dans la durée, il ne fallait aucune violence à l'encontre de qui que ce soit. Un principe confirmé par Julie et Claire, présentes également ce soir-là. On s'était dit pas de dégradation, pas de casse, pas de tac. Et c'est ce qu'on a fait, assurent les deux lycéennes. Le lendemain de l'occupation, un communiqué des personnels de l'établissement indique que les professeurs n'ont constaté ni graffiti, ni vitres cassées, ni matériel endommagé. Ce que la préfecture de police dit sur les violences et les dégradations est exagéré, insiste Margot. C'est une déformation de faits minimes pour choquer et délégitimer la violence des interpellations. Car aucune des élèves interrogées n'était préparée à l'épisode de répression qui a suivi à l'intérieur de l'établissement scolaire public. Une fois entrés dans le bâtiment, des élèves ferment les accès à l'étage dans lequel ils étaient installés, avec des chaises et des tables, tandis que d'autres installent des banderoles aux fenêtres en soutien aux Palestiniens de Gaza. Des interlocuteurs choisis par les élèves sont postés aux entrées pour engager les discussions avec la direction. Une quinzaine de minutes après leur entrée dans le bâtiment, ce n'est pas la proviseur, mais les forces de l'ordre qui se présentent et tentent de forcer les accès à l'étage. Selon les trois lycéens interrogés, une grenade lacrymogène est lancée à vue et sans sommation par les forces de l'ordre à travers les barricades improvisées. À partir de ce moment-là, les trois lycéennes racontent près de 2 heures de panique où se mêlent humiliation, insultes et violences physiques. Les élèves se réfugient dans une salle de classe pour prendre l'air à la fenêtre. Les forces de l'ordre sont entrées dans la salle. Certains matraquent à la main, d'autres avec leurs armes de service ou des lanceurs de LBD pointés sur nous, se rappelle Margot. C'était très impressionnant. J'ai cru que j'allais mourir, raconte Julie. Un policier m'a tiré par les cheveux et insulté, continue Julie. Les trois lycéennes le confirment. Les insultes fusent de la part des policiers. Ferme ta gueule, gauchias, vous êtes des moutons. Vous, les bourgeois, vous n'allez pas nous dire que vous en avez quelque chose à faire de Gaza. Vous voulez voir à quoi ressemblera un État fasciste ? À ça ! Les lycéennes et lycéens vont rester allongés ou assis par terre, les uns sur les autres, dans un coin de la salle, les mains sur le dos restreintes par des colliers de serrage. Un policier a pris une photo de moi alors que j'étais au sol et menotté et m'a lancé. « Faudrait commencer à penser à ton régime pour l'été », raconte Julie, encore choquée par ses propos. Margot, Julie et Claire rapportent également avoir été témoins de remarques homophobes et transphobes envers plusieurs de leurs camarades. Les lycéennes et lycéens sont envoyés au compte-gouttes dans différents commissariats parisiens où ils et elles seront toutes et tous placés en garde à vue. Il y avait de nombreux fourgons de police stationnés devant le lycée avec un cordon de sécurité très large autour de l'entrée, raconte une représentante de Sud Éducation présente à l'extérieur de l'établissement pendant l'opération. J'étais scandalisé par cette réaction disproportionnée de la police face à une occupation pacifique pour soutenir une cause que je trouve juste, dire stop au massacre à Gaza et appeler à un cessez-le-feu. Dès le lendemain, la direction a menacé les participantes et participants de conseils de discipline et a conditionné leur retour en classe à un entretien personnel avec la proviseure, provoquant l'ire des personnels de l'établissement et des parents d'élèves. Contacté, le rectorat de l'Académie de Créteil n'a rien trouvé à redire sur ces interpellations massives, mais précise que les procédures disciplinaires engagées ne donneront pas suite à des conseils disciplinaires. La plupart des lycéens sont restés près de 24 heures en garde à vue. Aucune poursuite n'est pour l'instant engagée contre eux. Donc je vous propose d'en rester là pour ce texte. Il y a encore toute une partie que vous pouvez trouver bien évidemment sur Mediapart. C'est le site sur lequel ce témoignage est publié. C'est un texte de Célia Mebroukine qui a été publié donc le 21 juin. Et puis nous mettrons également les liens sur le site du groupe Fred Zeller, dont je vous rappelle l'adresse lpdordogne.fr. Nous en avons donc terminé pour cette chronique de ce lundi 24 juin et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord le lundi 1er juillet. Dans quelle situation serons-nous ? C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive brisé en forgeant un socle charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi
de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.